Et c'est là, Noël Arnaud, que commence une découverte de l'Autriamont. Et ce que vient de dire Kerradec est d'autant plus intéressant que s'il n'y avait pas eu à un moment donné, comme parmi les conservateurs de la bibliothèque, qui n'était plus la bibliothèque impériale, qui était déjà la bibliothèque nationale et qui s'appelait Remis de Gourmont, peut-être ne connaîtrions-nous pas Poésie d'Isidore Ducasse.
C'est probable.
Puisqu'il n'en existe au monde qu'un seul exemplaire.
Exactement.
Celui-là, et qui a été découvert par Gourmont. Il y a l'extraordinaire épopée de la première découverte.
Oui, c'est en effet une épopée. Pour moi, la date capitale pour l'Autréamont, mais je vais plus loin, enfin j'ose le dire, pour l'histoire de la poésie contemporaine, l'histoire de la poésie depuis un siècle, la date capitale, le tournant du siècle, c'est 1885, et même très précisément octobre 1885, quand paraît dans la Jeune Belgique la 11e strophe des chants de Maldoror, sous d'ailleurs la signature de Vicomte de Lautréamont, qui est une curiosité, pas encore expliquée à ma connaissance, j'ai vu nulle part l'explication de cette petite erreur. Le comte de Lautréamont n'est plus que vicomte en Belgique.
Non, on pense généralement ceci. Parce que ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait en Belgique un libraire soldeur, oui. Rosès.
Oui. Hein,
et ce Rosès avait repris le fond, une partie du fond, la croix,
oui.
Parmi lesquels se trouvaient les cahiers non brochés.
C'est ça.
N'est-ce pas, des chants de Maldoror. Et c'est Max Valère, un jeune de la Jeune Belgique.
Oui, qui était l'animateur de la Jeune Belgique, enfin de son vrai nom, Maurice Varlaumont, sauf erreur de ma part. Pas plus connu d'ailleurs sous le nom de Maurice Varlaumont que sous son pseudonyme de Max Valère, et c'est bien dommage. Il est vrai qu'il est mort très jeune, il n'avait pas 30 ans quand il est mort, mais qui a joué un rôle considérable, et en tout cas, pour l'histoire posthume de l'Autréamont, le rôle essentiel.
Oui, mais alors...
C'est Max Valère qui découvre... dans la cave de Rosès, les chants de Maldoror. Enfin, je crois d'ailleurs, Hubert Join, qu'il y a une toute petite erreur, je crois qu'ils étaient brochés à ce moment-là. Hein. Ils étaient brochés. Ou la croix, avant de les céder à Rosès, ou Rosès lui-même, avait quand même eu la pudeur exceptionnelle, n'est-ce pas, de faire brocher les exemplaires. Il faut d'ailleurs rendre hommage à ces deux libraires. Ben, c'est vraiment fantastique de penser que 15 ans après, hein, ils prennent soin de ce tas de papier dont personne ne voulait. Ben.
Et alors, Max Valère, s'emparant d'un exemplaire, s'empare aussi d'un renseignement faux. C'est que Rosès lui dit, c'est l'œuvre d'un fou.
Oui.
Mais Max Valère se précipite quand même au café Césineau à Bruxelles.
C'est cela.
Où se rejoignaient les jeunes Belgiques.
C'est-à-dire Albert Giraud notamment. C'est-à-dire Yvan Gilkin, je le prononce peut-être mal.
Gilkin,
à la française. Georges Écoud, aussi. Hein, et
Jules Destré.
C'est vrai. Hein, et Jules Destré. Et Jules Destré qui aura sur la vie de Huysmans après une grande influence. Ils lisent les chants de Maldoror et ils sont enthousiasmés. Et ils décident d'en publier un extrait dans la Jeune Belgique. Mais ils font mieux. Ils achètent un certain nombre d'exemplaires à Rosès, et ils sont tellement enthousiastes de cette œuvre qu'ils l'envoient à un certain nombre d'écrivains français.
On peut en citer quelques-uns, Peladan,
Léon Blois,
Huysmans.
Et Huysmans notamment. Et ça, c'est tout de même extraordinaire, parce que toute la gloire de l'Autréamont va se déclencher à partir de ce moment-là. Car aussi bien Huysmans que Blois, en particulier, et même Peladan, mais surtout Huysmans et Blois, à leur tour, s'enflamment à la lecture des chants de Maldoror.
Alors, n'oublions pas de rendre hommage au passage à quelqu'un d'autre, qui est un Belge également, qui est installé à Paris,
oui,
qui est Genonceau.
C'est Genonceau, qui est en effet un Belge. Alors ça, il faut bien le dire, nous sommes tenus de rendre hommage aujourd'hui à la Belgique, si souvent moquée quand il s'agit de l'histoire littéraire de la France ou de la langue française. Mais là, la Belgique a joué le rôle essentiel. Ben, c'est indéniable. Je voudrais tout de même faire remarquer que ces gens de la Jeune Belgique, ces jeunes de la Jeune Belgique, ne sont pas des décadents ni des symbolistes. ce sont des romantiques qui flirtent avec le Parnasse.
Les baudelairiens.
Voilà, j'allais le dire, ce sont les romantiques baudelairiens, les derniers romantiques baudelairiens. Et il est frappant aussi qu'ils envoient l'œuvre de Lautréamont, non pas à des écrivains décadents ou symbolistes, mais également aux derniers grands romantiques, aux romantiques échevelés, n'est-ce pas, que sont Huysmans finalement, n'est-ce pas, et Léon Blois et Péladan. Et là, il y a, à mon avis, la clé d'un passage essentiel de notre littérature. Et c'est ce passage du romantisme au symbolisme, se fait par Lautréamont romantique, hein, envoyé par des romantiques baudelairiens à des romantiques français, aux survivants, en quelque sorte, de l'esprit romantique en France. Et c'est à partir de là que Lautréamont va s'introduire dans le symbolisme.
Que le lecteur ne se fâche pas contre moi si ma prose n'a pas le bonheur de lui plaire. Tu soutiens que mes idées sont au moins singulières. Ce que tu dis là, homme respectable, est la vérité, mais une vérité partiale. Or, quelle source abondante d'erreurs et de méprises n'est pas toute vérité partiale. Les bandes des tourneaux ont une manière de voler qui leur est propre et semble soumise à une tactique uniforme et régulière, telle que serait celle d'une troupe disciplinée obéissant avec précision à la voix d'un seul chef. C'est à la voix de l'instinct que les étourneaux obéissent, et leur instinct les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton, tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au-delà, en sorte que cette multitude d'oiseaux, ainsi réunis par une tendance commune vers le même point aimanté, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en tous sens, forment une espèce de tourbillon fort agité dont la masse entière, sans suivre de direction bien certaine, paraît avoir un mouvement général d'évolution sur elle-même, résultant des mouvements particuliers de circulation propres à chacune de ses parties, et dans lequel le centre, tendant perpétuellement à se développer, mais sans cesse pressé, repoussé par l'effort contraire des lignes environnantes qui pèsent sur lui, est constamment plus serré qu'aucune de ces lignes, lesquelles le sont elles-mêmes, d'autant plus qu'elles sont plus voisines du centre. Malgré cette singulière manière de tourbillonner, les étourneaux n'enfantent pas moins, avec une vitesse rare, l'air ambiant, et gagnent sensiblement à chaque seconde un terrain précieux pour le terme de leur fatigue et le but de leur pèlerinage. Toi, de même, ne fais pas attention à la manière bizarre dont je chante chacune de ces strophes. Mais sois persuadé que les accents fondamentaux de la poésie n'en conservent pas moins leur intrinsèque droit sur mon intelligence. Ne généralisons pas des faits exceptionnels, je ne demande pas mieux. Cependant, mon caractère est dans l'ordre des choses possibles. Sans doute entre les deux termes extrêmes de ta littérature telle que tu l'entends et de la mienne, il en est une infinité d'intermédiaires et il serait facile de multiplier les divisions. Mais il n'y aurait nulle utilité et il y aurait le danger de donner quelque chose d'étroit et de faux à une conception éminemment philosophique qui cesse d'être rationnelle dès qu'elle n'est plus comprise comme elle a été imaginée, c'est-à-dire avec ampleur. Tu sais allier l'enthousiasme et le froid intérieur, observateur d'une humeur concentrée. Enfin, pour moi, je te trouve parfait. Et tu ne veux pas me comprendre? Si tu n'es pas en bonne santé, suis mon conseil. C'est le meilleur que je possède à ta disposition et va faire une promenade dans la campagne. Triste compensation, qu'en dis-tu? Lorsque tu auras pris l'air, reviens me trouver. Tes sens seront plus reposés. Ne pleure plus, je ne voulais pas te faire de la peine. N'est-il pas vrai, mon ami, que jusqu'à un certain point, ta sympathie est acquise à mes chants? Or, qui t'empêche de franchir les autres degrés? La frontière entre ton goût et le mien est invisible. Tu ne pourras jamais la saisir. Preuve que cette frontière elle-même n'existe pas. Réfléchis donc alors. Je ne fais ici qu'effleurer la question. Il ne serait pas impossible que tu eusses signé un traité d'alliance avec l'obstination, cette agréable fille du mulet, source si riche d'intolérance. Si je ne savais pas que tu n'étais pas un sot, je ne te ferais pas un semblable reproche. Il n'est pas utile pour toi que tu t'encroutes dans la cartilagineuse carapace d'un axiome que tu crois inébranlable. Il y a d'autres axiomes aussi qui sont inébranlables et qui marchent parallèlement avec le tien. Si tu as un penchant marqué pour le caramel, admirable farce de la nature, personne ne le concevra comme un crime. Mais ceux dont l'intelligence, plus énergique et capable de plus grandes choses, préfère le poivre et l'arsenic, ont de bonnes raisons pour agir de la sorte sans avoir l'intention d'imposer leur pacifique domination à ceux qui tremblent de peur devant une musaraigne ou l'expression parlante des surfaces d'un cube. Je parle par expérience, sans venir jouer ici le rôle de provocateur. Et de même que les rotifères et les tardigrades peuvent être chauffés à une température voisine de l'ébullition sans perdre nécessairement leur vitalité, il en sera de même pour toi si tu sais t'assimiler avec précaution l'âcre sérosité suppurative qui se dégage avec lenteur de l'agacement que causent mes intéressantes élucubrations. Et quoi, n'est-on pas parvenu à greffer sur le dos d'un rat vivant la queue détachée du corps d'un autre rat? Essaie donc pareillement de transporter dans ton imagination les diverses modifications de ma raison cadavérique. Mais sois prudent. À l'heure que j'écris, de nouveaux frissons parcourent l'atmosphère intellectuelle. Il ne s'agit que d'avoir le courage de les regarder en face.
Romil Gourmont, lui, avec un esprit beaucoup plus systématique, entreprend d'abord une approche d'Isidore Ducasse, c'est-à-dire de Lautréamont, découvre poésie, ce qui est considérable, écrit des textes comme la littérature Mal d'Aurore, et surtout fait lire à d'autres, n'est-ce pas, notamment Noël Arnaud, Jarry.
Très rapidement, il fait connaître Lautréamont à Alfred Jarry. On peut rapidement dire que c'est vraisemblablement Huysmans qui avait fait connaître Lautréamont à Gourmont, car c'était une époque où ils étaient encore assez liés, et on a tout lieu de penser que Gourmont a connu Lautréamont, les Chants de Mal d'Aurore, par Huysmans.
Qui le connaissait par les Belges.
Qui le connaissait par les Belges. Mais Gourmont avait à l'époque une très grande influence sur la jeune poésie, sur la jeune littérature, et il est sûr que son article a eu un grand retentissement parmi ce qu'on est bien obligé d'appeler les jeunes symbolistes, la dernière génération, la seconde ou troisième génération symboliste, enfin les plus jeunes, et notamment Alfred Jarry.
Et un autre quand même, parce qu'il me semble, moi, qu'Alfred Jarry a lu les Chants de Mal d'Aurore en compagnie de Léon Paul Fargue.
En compagnie, oui, très vraisemblablement, de Léon Paul Fargue. En tout cas, Jarry publie donc en 1894... Alderneblou, ce célèbre texte, hein, où il faut bien dire que non seulement l'influence de Lautréamont, mais les références explicites parfois,
les beaux comme,
n'est-ce pas, apparaissent de toute évidence, n'est-ce pas. Et ce texte est, selon la dédicace, appartient à Romy de Gourmont. N'est-ce pas. C'est dire tout ce que Jarry estimait devoir à ce moment-là, et notamment pour ce texte, à Gourmont.
Thank you.